Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous, vraiment c'est un plaisir, de faire votre connaissance. J'avais rencontré Bernard il y a très longtemps quand il était venu prêcher à Reims, dans l'église où j'étais jeune serviteur, et puis voilà, donc ça me fait plaisir de le revoir. Je connais le frère de son épouse aussi, puisqu'il est sur le bassin d'Arcachon, et j'ai eu l'occasion de connaître une autre partie de l'église, donc de la famille. Je suis content de vous rencontrer. Effectivement, comme disait Julien, je le connais depuis longtemps. Et puis c'est vraiment, on a un lien particulier, on s'apprécie beaucoup. Et donc il prend une nouvelle saison. Moi, je peux vous dire que, je vais vous faire un peu de pub, mais voilà, vous êtes entre de bonnes mains. Hein. Quand il a quitté Limoges, toute l'église pleurait, donc c'est plutôt bon signe. Hein. Et l'église se réjouit quand le pasteur part, bon, c'est moi bien, là, l'église pleurait. Donc écoutez, on est content, je suis avec mon épouse qui est là. Je me déplace pas toujours avec mon épouse, mais aujourd'hui elle a pu être là, donc je suis content, voilà, parce que. Ma femme et moi, on forme un couple extraordinaire. Hein. Moi, je suis extra, puis elle est ordinaire. Donc, comme ça. Ah, là, il y a des femmes qui. Solidarité féminine, tout de suite. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, on est formidables tous les deux. Amen. Et puis, effectivement, on a implanté une église il y a quelques années. Je travaille à la porte ouverte. J'étais à la porte ouverte chrétienne de Reims pendant très longtemps. Et puis. Le Seigneur a permis qu'on parte maintenant sur le bassin d'Arcachon, donc on est environ une heure en dessous de Bordeaux. Et puis le Seigneur nous a poussé à démarrer une œuvre il y a quelques années. Donc ça a démarré par un petit groupe de chrétiens dans mon salon. Et puis en 2019, on est sorti de mon salon. Et puis aujourd'hui, on vient d'acheter des locaux. On est heureux, on a enfin des locaux. Et donc normalement, à la fin de l'année, on devrait être dans nos locaux définitifs. Parce que pour l'instant, on se balade de salle en salle, c'est pas toujours évident. Voilà un petit peu pour les présentations. Amen. Et puis je priais ces quelques jours là, je priais pour ce moment qu'on va passer ensemble ce matin. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à cette église, hein? Quand on visite une église qu'on connaît, c'est facile. Quelquefois, on sait un peu ce qui manque à l'église, on sait ce dont l'église a besoin. Et puis ces derniers jours où je priais, j'ai vraiment reçu quelque chose sur mon cœur. Je vous le partage. C'est ce verset et ce sera un peu le lien de mon message en tout cas. Mais je vous donne ce verset à titre d'église, mais aussi à titre individuel. Pour chacun d'entre vous, voici ce que dit dans Apocalypse 4, verset 1. « Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix, que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Amen. C'était ce terme « Monte ici ». Amen. Et je vais vous le laisser pour chacun d'entre vous, mais aussi à titre d'église, le Seigneur vous dit monte. Monte ici. Vous savez, il y a des choses que, quand l'ange dit ça à Jean, et il lui fait comprendre qu'il y a des choses au niveau où il est, il ne pourra pas les voir. Le Seigneur lui dit, mais maintenant monte d'un cran et tu vas voir de nouvelles choses. Amen. Et je voudrais vous dire, bien aimé, chacun d'entre vous, montez. Montez d'un cran, il y a des choses que vous ne pouvez pas encore imaginer aujourd'hui, que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui en tant qu'église ou en tant qu'individu. Mais le Seigneur vous dit, montez d'un cran. Montez sur la marche supérieure. Ce sera le but de mon message. Je voudrais vous laisser vraiment ce verset comme quelque chose sur votre cœur. Et puis nous lisons, et là ce sera l'introduction de mon message, dans 2 Rois 19, 29, si vous voulez bien. 2 Rois 19, 29. Deux Rois 19, 29. Une prophétie qui est adressée au roi d'Israël. Et on lui dit, pour ceux qui l'ont, voilà, que ceci soit un signe pour toi. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. Je le relis rapidement. Que ce soit un signe pour toi. On a mangé la première année le produit du grain tombé. Une seconde année, ce qui croît de soi-même. Et la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait, mes bien-aimés, tout ce que Dieu fait, toutes les choses dont Dieu est à l'origine a une croissance. Eh oh, tout ce que Dieu fait a une croissance. Je me baladais, donc on est là depuis 2-3 jours, on a profité avec mon épouse pour faire une un petit week-end, donc dans votre région que je ne connaissais pas. On s'est baladé à un moment, on était au bord d'un cours d'eau et on longeait un cours d'eau. Là, il y avait des arbres magnifiques et je levais la tête. Ces arbres étaient très, 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 très grands. Des arbres qui avaient, je sais pas, peut-être des centaines d'années. Et vous savez que cette nature, Dieu nous dit, nous enseigne que quand on regarde la nature, c'est les perfections de Dieu que l'on voit. Amen. Et donc, vous voyez qu'une graine qui est tombée au sol, quelque chose que Dieu a créé, la nature que Dieu a créée, est en mouvement et elle grandit et elle croît. Tout ce que Dieu fait croit. Les scientifiques ont découvert que même l'univers grandit. C'est l'expansion de l'univers, on nous dit. Tout ce que Dieu fait grandit. Tout ce que Dieu fait avance. Et la vie chrétienne doit avancer. Ta vie doit avancer. Ta vie doit croître. Dans tous les domaines. L'Église doit croître, l'Église doit avancer, pas toujours qu'en nombre, aussi en profondeur. Tout ce que Dieu fait est en mouvement. Et vous savez, quand la maman accouche d'un petit bébé, les premières choses qu'on fait dans les premiers temps, on mesure, on pèse le bébé pour voir s'il grandit bien, s'il grossit bien. Si dans les premiers temps le bébé ne grossit pas ou ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Oui ou non ? Et si ton petit bonhomme qui a déjà plusieurs mois, il fait le même poids que quand il est sorti, ben, il faut commencer à s'inquiéter. Oui ou non ? Pour la vie chrétienne, c'est pareil. Hein. Et peut-être vous êtes chrétien depuis quelques années, peut-être certains depuis pas longtemps, d'autres depuis plus longtemps, mais tu dois regarder en arrière et tu dois avoir une croissance. Et s'il n'y a pas de croissance, il y a un problème. Il doit y avoir une croissance dans la vie chrétienne. Il doit y avoir une croissance dans l'Église. C'est obligatoire. Je me souviens, il y a quelques années, j'aime bien faire des blagues, moi. Je suis un peu blagueur, mais mes enfants, des fois, en ont marre de mes blagues. Ils disent, papa, on en a marre de tes blagues. Et un jour, je me souviens, j'avais mon petit bonhomme qui avait, je sais pas quel âge il avait, notre deuxième, il fête 20 ans la semaine prochaine, et il devait avoir 2 ans. Et à l'école du dimanche, il était venu, on leur avait fait faire un petit pot de terre, ils avaient mis une graine dedans. Et il avait posé cette graine, je me souviens, sur le micro-ondes dans la cuisine, et puis et tous les jours, il voulait voir si la graine avait poussé. Donc, l'une des premières choses qu'il faisait, quand il se levait, il descendait l'escalier 4 à 4, et il allait voir dans le pot s'il y avait quelque chose qui avait poussé. Il s'attendait à une croissance. On lui avait dit, si tu plantes la graine, il va se passer quelque chose. Et donc, il s'attendait à ça. Et tous les matins, il dévalait les escaliers, tous les matins, il s'attendait, et ça s'était pas sorti tout de suite. Et puis un jour, j'étais levé de bonne heure, j'étais avec mon café, et puis je savais que le petit allait descendre. J'ai été dans le jardin, j'ai coupé une branche de lilas qui faisait 50 cm, et je l'ai planté dans le petit pot de fleurs comme ça. J'ai planté une plante comme ça. Et donc, je vois le petit qui descend les escaliers, il tourne dans la cuisine, et hop, on le regarde vers le micro-ondes. Elle a un temps d'arrêt. Il y a un truc qui n'est pas normal. J'ai le petit, il y a un truc qui n'est pas normal. Il est resté planqué devant le petit pot. Enfin bref, ça m'a fait sourire. Mais c'est important, mes bien-aimés, et c'est ce à quoi je veux vous inviter ce matin, en tout cas, vous encourager ce matin à regarder les croissances et les fruits de votre vie. Et même si vous êtes chrétien depuis pas longtemps ou chrétien depuis très longtemps, peu importe, c'est peut-être ce matin le temps de faire le bilan. Voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 4. Il est dit, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce que Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par les moyens duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. On pourrait dire, Bernard a planté, Julien va arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Écoutez ce que dit ce texte. Dieu fait croître. Dieu n'a jamais fait stagner. Dieu n'a jamais permis que ça stagne. Dieu fait croître. Amen. Moi, vous savez, quand on a démarré l'église sur le bassin d'Arcachon, j'ai des gens qui me disaient « Oh, mais il faut qu'on reste une petite église, c'est bien. Et puis, il faut que des petits groupes de maisons, c'est bien, pas trop. On ne veut pas être trop nombreux. » Écoutez, je dis, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Et plus l'Église est remplie, plus il y a d'hommes sauvés, en théorie en tout cas. Mais la croissance, c'est la volonté de Dieu. Dieu fait croître. Amen. Dieu fait croître. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Dans Jean 15, verset 1, il est dit « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte encore plus. » Amen. La volonté de Dieu, c'est que ta vie soit remplie de fruits. Et si tu te dis peut-être ce matin, mais moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis chrétien et j'ai eu beaucoup de fruits, je suis content. Le Seigneur ne dit pas que c'est la fin des fruits. Le Seigneur te dit aujourd'hui, et c'est ça que je veux te laisser vraiment sur ton cœur, le Seigneur veut t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits. Église des Colombiers, l'Église veut que tu portes encore plus de fruits. Et toute l'Église dit... Amen, mais c'est la volonté de Dieu que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. Et c'est important. Et je crois que Dieu travaille à ce que tu portes du fruit. Dieu travaille. Dieu émonde. C'est du travail émondé. Vous êtes dans une région viticole. Je viens d'une région viticole aussi en Champagne. Les vignerons passaient du temps dans les vignes à tailler tout ce qui pouvait empêcher, qui prenait de la sève inutilement. Ils font ça, hein. Ils coupent tout ce qui prend de la sève et qui empêche la sève d'aller jusqu'au raisin, jusqu'à la grappe, jusqu'au fruit. Vous savez, les épreuves que tu vis dans ta vie, les moments difficiles que tu vis dans ta vie, Dieu permet, il coupe des choses dans ta vie pour que l'essentiel, pour que ton temps, pour que ton énergie, pour que ce que Dieu met en toi aille jusqu'au fruit. Amen. Et il y a un temps pour porter du fruit, c'est encore aujourd'hui. Dieu veut que tu portes encore plus de fruits et il y travaille. Ne lutte pas contre Dieu. Laisse-le porter du fruit dans ta vie, laisse-le t'émonder peut-être. Amen. La parole qui est donnée au roi Ézéchias que nous avons lue, je la relis rapidement. Que ceci soit un signe pour toi, on a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ceux qui croient de soi-même, mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. On nous parle ici il y a une notion de croissance qui est annoncée prophétiquement au roi. On lui dit, voici, bon, la première année, ce sera comme ça, la seconde, ce sera comme ça, et la troisième, ce sera comme ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et rappeler à quelqu'un que la vie chrétienne, si je devais faire un petit graphique là sur le mur et dessiner la vie chrétienne en fonction du temps, ce n'est pas une ligne droite où on grandit tout doucement, chaque jour un peu plus. La vie chrétienne, elle est souvent par étapes. Et ce serait plutôt comme un escalier, si je devais la dessiner. Vous savez, il y a des moments dans votre vie et dans la vie chrétienne où on se dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que je stagne depuis des années, j'ai l'impression que rien ne se passe, et peut-être vous êtes frustré, et Dieu vous frustre quelquefois, volontairement, nécessairement, il vous assoiff pour vous préparer à passer sur la marche supérieure. Amen. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie chrétienne. La marche avec Dieu, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des étapes à passer, il y a des marches à passer. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, et vous dit aujourd'hui, monte. Monte sur la marche du dessus. Monte sur la marche du dessus. Il y a quelquefois des passages dans nos vies où ça semble compliqué, où on a l'impression que Dieu nous résiste quelquefois, où on a l'impression que les choses qui étaient faciles hier deviennent dures aujourd'hui. Mais c'est vrai, parce que Dieu attend plus de vous encore. Et Dieu vous pousse encore un peu plus loin. Quand j'ai connu mon épouse, et c'est moi qui lui ai parlé du Seigneur, et on s'est connus à la fac, à Reims, je lui ai parlé du Seigneur, et au tout début qu'elle découvrait le Seigneur, je lui ai offert une Bible, elle découvrait la Bible, elle découvrait la vie avec Dieu, elle découvrait la prière. Et je me souviens, elle priait pour tout, pour rien, et Dieu lui répondait, mais presque instantanément, j'étais jaloux, hein. Moi, je venais lui parler du Seigneur et elle priait pour tout. Et instantanément, elle avait la réponse dans les 10 minutes. Elle était exaucée tout le temps. Et puis, un peu plus tard, dans sa vie chrétienne, elle dit, mais j'ai l'impression que Dieu ne me répond plus de la même façon. Plus aussi automatiquement. Ça vous est déjà arrivé ou pas, ça? Tous, je crois. Vous savez, quand mon jeune fils qui... Donc, j'ai trois garçons. Hein, mes fils, au tout début, quand ils étaient petits... Ils criaient, on leur donnait à manger. Ils pleuraient, on faisait les choses pour eux. Au tout début, ils pleuraient, on prenait vite... il a fait le petit biberon, on met le biberon. Mais si mon fils, mon aîné aujourd'hui a 23 ans, si à 23 ans il pleurait et puis j'étais obligé de lui mettre le biberon, il y aura un problème. Hein. Et à un moment, mes enfants, ils pleuraient. J'ai dit, non, mais je ne le fais plus. C'est à toi de le faire. Maintenant, tu prends ta fourchette, tu vas apprendre. Au début, c'est dur. Au début, tu ne vas pas y arriver. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vais le faire. C'est ce que Dieu fait avec vous, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu fait avec nous. Oh, au tout début, la vie chrétienne, il nous donne le biberon dès qu'on demande. Dès qu'on pleure, dès qu'on crie, il vient nous alimenter. Et à un moment, il nous fait passer sur la marche du dessus. Parce que, mes bien-aimés, vous n'êtes pas appelés à être des enfants seulement de Dieu, mais à être des fils de Dieu. C'est ta destinée, ce n'est pas être enfant de Dieu, mais être fils de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mes bien-aimés, je voudrais vous pousser ce matin. Vous donner envie de monter sur la marche supérieure. Parce qu'il y a quelque chose au-dessus. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Je crois que c'est terrible quand un chrétien croit qu'il est arrivé. Je trouve ça terrible. Un chrétien croit être arrivé, bon, moi, ça y est. Ça fait quand même des années que je marche avec le Seigneur, je suis quand même pas mal. J'ai plus trop de progrès à faire. Mais bien aimé, c'est terrible. C'est terrible. Ça fait des années que je sers le Seigneur, ça fait des années que je connais le Seigneur. Souvent, devant Dieu, je me dis, Seigneur, je voudrais grandir encore. Je voudrais mieux entendre ta voix, je voudrais être plus sensible à ta voix, je voudrais avoir plus de résultats dans mon service, je voudrais mieux te connaître. Mais vous devez avoir des soifs, vous devez avoir des désirs, vous devez avoir des rêves, vous devez être alimenté par cela, vous ne devez pas avoir arrêté, et peu importe l'âge, vous devez être rempli de cela. Écoutez, je retourne à mon texte. Que ce soit un signe pour toi, on a mangé la première année le grain qui est tombé, une seconde année ce qui croit de soi-même, et la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, vous en mangerez le fruit. Ça nous montre trois étapes de la vie chrétienne. Ces trois étapes, on les retrouve très souvent dans la Bible, et je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose. Ces trois étapes sont trois étapes de la vie chrétienne. Bien sûr, il y en a beaucoup plus que trois. Hein. Ici, elles sont, on en nomme trois, mais ces trois étapes vont crescendo. Crescendo dans la difficulté à obtenir le fruit. La première année, on mange ce qui est tombé par terre. Puis la seconde, on est obligé de lever les mains et de commencer à prendre ce qu'il y a dans l'arbre. Et puis la troisième année, on te dit maintenant, tu vas semer, tu vas moissonner si tu veux récolter. Amen. Non seulement ça va croissant dans la difficulté, mais ça va croissant dans le fruit. J'ai envie de te dire que ce que tu as vécu au début de ta conversion, c'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour la fin de ta conversion. La fin de ta vie, pardon. C'est rien. Est-ce qu'il y a des gens ici que vous avez des arbres fruitiers peut-être chez vous? Levez la main. Il y en a qui ont des arbres fruitiers? Moi, quand j'étais sur Reims, alors pas plus maintenant à Arcachon, mais quand j'étais sur Reims, on avait la chance d'avoir un grand terrain et on avait plusieurs arbres fruitiers. On avait des pommiers, on avait des poiriers, des cerisiers, on avait des framboisiers, je ne sais plus, on avait beaucoup d'arbres fruitiers. Les fruits qui sont tombés au sol, ce n'est pas les meilleurs, hein? Oui ou non? Ceux qui sont tombés au sol, souvent, c'est ceux qui ont les vers. Vous tombez la pomme qui est au sol, c'est celle qui est à moitié mangée. La pomme qui est au sol, souvent, il y a les guêpes ou les frelons qui ont commencé à la manger. Et c'est ça que Dieu nous dit. La première année, vous avez mangé ce qui était par terre. Le fruit qui est tombé par terre. La première année, vous êtes contentés de cela. C'était le début. C'est le début. Vous découvrez seulement le Dieu qui... Oui, c'est bien, il répond mes prières, c'est super. Mais la seconde année, maintenant, vous allez aller cueillir du fruit, un meilleur fruit. Ça va vous demander des efforts. Ça va être un peu plus difficile. Mais il y a un fruit et un fruit meilleur. Et la troisième année, il va falloir creuser, il va falloir planter, et il va y avoir un fruit excellent derrière. Amen. Vous allez cultiver. C'est plus le pommier sauvage, c'est plus la vigne sauvage. Ça va être quelque chose qui est cultivé, qui est préparé, et il y a du fruit pour toi. Église, il y a du fruit pour toi. Église, il y a du fruit pour toi, bien meilleur encore. Dans ta vie personnelle, il y a du fruit encore, encore bien meilleur. Voici ce qui est dit dans Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. On retrouve ici ces trois notions de croissance. Je vous ai écrit ici, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Il parle à trois catégories de personnes. Lorsque l'apôtre Jean s'adresse dans ce texte, il s'adresse à trois catégories de personnes. Les enfants, les jeunes gens et les pères. Trois catégories, trois niveaux de croissance. Bien sûr, je le répète, il y a plus de croissance que ça, il y a plus de niveaux, il y a plus de paliers. Mais en tout cas, ici, on nous cite trois paliers et les trois sont attachés à quelque chose de différent. Les jeunes gens, c'est ceux qui ont connu que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aime, c'est super. Moi, quand j'ai découvert l'amour que Dieu avait pour moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, vraiment, ça a été un moment extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'était que le début, hein. Vous savez ce que je dis souvent aux gens qui se font baptiser chez nous, je leur dis souvent, mais le baptême, c'est le début, c'est pas la fin, hein. C'est maintenant que ça commence. Avec le baptême, c'est maintenant que ça commence. La deuxième, on nous parle des jeunes gens, et les jeunes gens nous disent qu'ils ont vaincu le malin. Eh oh, on ne peut pas devenir un père si à un moment on n'a pas réglé certains problèmes. Et il y a un moment, dans ta vie chrétienne, il y a un moment quand tu veux avancer, tu vas rencontrer le diable. Et il y a des choses à régler avec le diable. Il y a des choses à régler dans ta vie. Il y a des épreuves où il y aura un face-à-face quelquefois aussi avec le diable. Et le diable va venir se présenter. S'il s'est présenté à Jésus, il se présentera à toi. Quelqu'un a dit il y a longtemps, mais que si tu ne croises jamais le diable sur ta route, alors c'est peut-être que tu marches à ses côtés. Eh, c'est pas une blague, hein, ce que je dis. Hein. Si jamais tu rencontres le diable à un moment, c'est que peut-être tu marches à ses côtés. Vous savez, quand vous commencez à vous lever pour Dieu, quand vous commencez à prendre des positions pour votre vie, quand vous commencez à décider qu'il y a certaines choses que vous ne voulez plus faire, lorsque vous décidez d'être intègre pour Dieu, je vous assure qu'à un moment, vous allez avoir des soucis avec le diable. Il va y avoir un combat. Lorsque j'ai parlé du Seigneur à mon épouse, et donc elle découvrait cette vie chrétienne, et je vous parlais tout à l'heure que Dieu répondait à toutes ses prières, c'est exceptionnel. Et puis après, est venu un autre temps. Hein. Est venue la persécution par la famille, où les gens de la famille ont commencé à la rejeter, les gens de la famille ont commencé à lui dire « mais t'es chez des fous ». T'es dans une secte, le jour de notre mariage, les gens appelaient en disant « mais ne te marie pas avec lui, il va t'enfermer dans une pièce, tu ne pourras plus sortir ». Ça fait presque sourire. Hein. Mais il y a un moment où ça arrive dans la vie. Hein. Vraiment, hein. Ça arrive. Et puis il y a une troisième étape, c'est quand on est arrivé à un certain niveau, on connaît le Père. On connaît le Père. Je n'ai pas prévu de la lire ici, mais vous connaissez cette parabole du fils prodigue, hein. Deux fils. Deux fils, il y en a un qui dit « donne-moi ». Donne-moi, papa, donne-moi tout ce qui est à moi. Le premier niveau. Ce que je dis, le premier niveau, on dit « Seigneur, donne-moi, réponds-moi. Seigneur, j'ai besoin. » Vous savez, le Seigneur le fait. Si vous demandez, il le fait. Il va le faire. Mais une autre étape, c'est le fils qui travaille avec le père. Et j'aime cette phrase que le père dit au fils « mais toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Amen. C'est ça que je veux. Hein. Moi, je n'ai pas seulement besoin des bénédictions pour aller faire ma vie. Seigneur, je voudrais pouvoir dire, Seigneur, tu es toujours avec moi, je suis toujours avec toi. Et tout ce que le Père a, il me l'a donné, il me l'a confié. Amen. Amen. C'est le troisième niveau. C'est un autre niveau, mes bien-aimés. Et c'est là que vous devez atteindre chacun vos vies. Vous devez grimper d'un niveau. Vous devez rencontrer le Père. Vous devez devenir un fils. Vous ne pouvez plus, vous ne devez plus rester au stade d'enfant. On doit grimper. Parce que les temps sont courts. Et parce que c'est la volonté du Père. Le Père travaille pour ce que tu portes plus de fruits. Amen. Et j'insiste, les fruits qui vont aller dans ta vie chrétienne, les fruits qui iront un peu plus dans ta croissance, et plus tu vas croître, plus les fruits que tu vas avoir seront de bons fruits. Seront de bons fruits. Des fruits excellents. De vivre la présence de Dieu, d'entendre la présence de Dieu, de voir Dieu t'utiliser, de vivre des choses puissantes avec Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Écoutez, dans Lévitique, ce qui est dit, il nous est parlé c'est une ordonnance par rapport à la purification. Il est dit « Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. » Il ne mangera pas de choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur. Il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Amen. Ta nourriture, mon bien-aimé. Ta nourriture. Ce sont des choses saintes. Ce sont des choses préparées. Ce sont des choses saintes, des choses que Dieu a voulu pour toi. Des choses que Dieu a mis de côté pour toi. Et de quoi tu t'alimentes peut-être aujourd'hui ? Julien a parlé en plaisantant, mais peut-être le temps sur les réseaux sociaux, le temps devant la télé. Aujourd'hui, tu nourris ton âme de ces choses. Tu nourris ton âme peut-être des ragots. Tu nourris ton âme peut-être des critiques. Tu nourris ton âme. Mais Dieu a prévu pour toi une nourriture qui est sainte. Des choses saintes. Tu as des choses saintes qui sont préparées. Tu as des choses saintes qui sont pour toi pour manger tous les jours. Jésus a dit, ma nourriture, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de mon Père. Et bien aimé, tu ne peux plus te contenter et tu ne dois plus te contenter. Et j'aimerais que tu sortes peut-être d'ici en te disant, mais moi maintenant, je veux manger que des bonnes choses. Maintenant, je veux manger des bonnes choses. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette explication, c'est que quelquefois, les chrétiens, on s'est résignés. Quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez fait cette expérience, qu'on avait l'impression que Dieu répondait plus facilement à nos prières au début de notre conversion qu'un peu plus tard. Tout le monde a levé la main, pratiquement. On a tous à peu près fait cette expérience. On a l'impression que Dieu nous répondait tout le temps au début, et après un peu moins. Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose, c'est que Dieu vous demande maintenant un effort. Dieu vous demande de rentrer dans quelque chose de différent maintenant. Dieu vous invite à aller un peu plus loin, à le connaître d'une façon différente. Dieu ne veut pas que tu connaisses seulement sa main qui te donne quelque chose. Dieu maintenant veut que tu connaisses sa voix. Puis après, il veut que tu connaisses son cœur. Tu ne peux pas te contenter uniquement de ce que Dieu veut te donner. Tu passeras tellement à côté de tellement de choses. De Timothée 2,6 nous dit « Il faut que le laboureur qui travaille, travaille avant de recueillir des fruits. » Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Amen. Quand on a quitté Reims, j'ai eu la grâce de rencontrer un homme de Dieu, quelqu'un qui est en Afrique et puis qui est vraiment un puissant homme de Dieu. Il a prophétisé sur nous et il a prophétisé dans ces termes. Il a dit, mais vous avez souvent semé, et vous avez l'impression, c'était pour Isabelle et moi, vous avez souvent l'impression, vous avez semé et pas toujours eu l'impression de récolter. Et le Seigneur nous disait, mais maintenant, vous allez rentrer dans une grande récolte. Mais Dieu disait, attention, continuez de semer si vous voulez récolter demain. Amen. Continuez de semer si vous voulez récolter quelque chose demain. On ne peut pas se contenter seulement de vivre avec les grâces. Et tout à l'heure, c'était dit pour Julien aussi, mais on croit qu'il y a des choses où on ne peut pas seulement se contenter de ce qu'on a reçu et de ce que Dieu nous a donné, mais on veut aller un petit peu plus loin. Amen. Mais on veut vraiment être guidé par le Seigneur. On veut entendre la voix du Seigneur. On va aller encore plus loin dans ces choses. Vous savez, je crois qu'à chaque étape, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne, c'est comme des marches à gravir. Mais à chaque étape, à la fin de chaque étape, très souvent, pour passer à la marche supérieure, il y a soit un temps d'épreuve, soit un temps de crise, soit un temps de remise en question. Un temps quelquefois un peu difficile, parce que Dieu, sur la marche supérieure, il sait ce qu'il y a. Et c'est comme un temps d'examen, comme un temps de mise en pratique de ce que tu as reçu pour passer sur la marche supérieure. Alors monte, mon bien-aimé, monte sur la marche supérieure. Et c'est toi qui peut-être aujourd'hui vis un temps de crise, vis un temps difficile, vis un temps où presque peut-être tu as envie de baisser les bras, de dire Seigneur, mais c'est trop difficile. Je te dis que si tu passes par ce temps, c'est parce que Dieu t'attend sur le niveau supérieur. Amen. Dieu t'attend sur le niveau supérieur. Et c'est un temps où ta foi est mise en examen, où ta foi est testée, où tes motivations sont testées, où ce que tu as dans le fond du cœur est testé. Tu dis, ah, je suivrai le Seigneur jusqu'au bout. C'est la décision que tu as prise, hein, dans le baptême. Je me souviens, on a, Si on devait avoir à l'église tous les gens qu'on a baptisés, mes bien-aimés, vraiment, mais nos églises seraient pleines. Hein. Très souvent, j'ai vu des gens prendre des engagements. Oh oui, quand tout va bien, prends des engagements. Et au moment où ça devient difficile, on lâche la main du Seigneur. Mais c'est aussi quelquefois le test. Vous savez, Jean-Peter Schmitt, qui a été mon pasteur aussi, disait souvent « sans épreuve, pas de preuve ». Sans épreuve, pas de preuve. Et le temps que tu passes, mon bien-aimé, le temps de crise par lequel peut-être tu passes, le temps de remise en question, le temps où vraiment tu sens que le Seigneur te travaille, je te le dis aujourd'hui, c'est pour te préparer à la marche supérieure. Est-ce que tu es prêt à ça? Oui? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce quand Abraham a vécu de belles choses, il va vivre un moment terrible où Dieu lui dit « maintenant donne-moi ton fils ». Et vous imaginez déjà le temps d'épreuve qu'il a vécu avant? Son épreuve, c'était d'obtenir ce fils. C'était tellement difficile. Et Dieu l'emmène dans une épreuve encore pire. Donne-moi ton fils, ton unique. Ce temps de crise, ce temps difficile pour l'emmener sur la marche supérieure. Amen. Il a accepté cette épreuve. Et Dieu lui dit, à partir de maintenant, je sais. J'aime cette phrase. Je sais désormais que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Il y a des choses dans l'épreuve où Dieu va apprendre des choses sur nous. Hein. Eh oui, des choses sur nous. Dieu dit à Abraham, je sais désormais. Amen. Il y a encore de bonnes choses pour nous. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Le piège, comme je le disais tout à l'heure, et je voudrais que vous compreniez ça, c'est que dans chaque saison, il y a du fruit. Écoutez, dans chaque saison, il y a du fruit. La première année, c'était le fruit tombé par terre, c'était le fruit peut-être qui était un peu pourri. C'est le fruit peut-être même qui a été piétiné par d'autres. C'est même peut-être le fruit où des insectes ont commencé à pondre dedans. Mais quelquefois, vous savez, les chrétiens, vous vous êtes contentés, excusez-moi, hein, tous les chrétiens sont un peu pareils, vous êtes contentés des petits fruits. Hein. Oui ou non? Quelquefois, vous vous êtes contentés des tout petits fruits. Ça nourrit un peu. On sent bien qu'on n'est pas rassasié. On sent bien qu'on n'est pas rassasié. On sent bien qu'on n'est pas comblé. Mais ça nourrit quand même. Et Dieu répond quand même aux prières. Mais Dieu a un fruit excellent pour toi. Écoute bien, mon frère, il a un fruit excellent pour toi. Un meilleur fruit pour toi. Je ne voudrais pas ce matin que tu restes sur les miettes seulement. Il y a des choses à vivre. Écoutez bien, il y a des choses à vivre avec Dieu. Et vous le savez, hein, il y a des choses à vivre avec le Seigneur. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Il est dit, est-ce que c'est Christ qui dort en moi? Eh oh! Il n'est pas dit, c'est Christ qui dort en moi, c'est Christ qui vit en moi. Et on ne peut pas suivre Christ sans rien vivre. Parce qu'on a un Dieu de la vie. On a un Dieu puissant, on a le Dieu de la résurrection. Et quand je marche avec Christ, je vis des choses dans ma vie. Ce n'est pas possible autrement. Amen. Mais quelquefois, malheureusement, le constat dans les églises, c'est que quelquefois, certains se sont contentés des petits fruits. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit non seulement vous devriez manger déjà autre chose que du lait. Vous devriez vous nourrir d'autre chose. Vous devriez être à un autre niveau. Mais il dit non seulement vous n'êtes pas passé au niveau supérieur, mais il dit aujourd'hui vous ne le pouvez toujours pas. Vous ne pouvez toujours pas. Vous devriez être beaucoup plus haut et vous ne l'êtes pas encore. Bien-aimé, j'espère que ce n'est pas pour vous. Et si c'est pour toi, je le dis vraiment sans accusation, mais je voudrais te communiquer l'envie de monter sur la marche supérieure. Amen. Amen. On va aller sur la marche supérieure. Le même constat dans Hébreux 5, 10. Vous, en effet, non, 5, 12, pardon. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Il est un enfant. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Dans Marc 7, verset 24, « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « Oui, Seigneur, lui dit-il, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors, il lui dit à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Amen. Amen. Qu'est-ce qui est destiné pour les enfants de Dieu? Le pain ou les miettes? Je n'ai pas entendu. Le pain? Le pain ou les miettes? Le pain. Dieu a prévu pour toi le pain. Et cette femme dit, « Mais moi, je mange les miettes. » Et Dieu te dit, aujourd'hui, il a du pain pour toi. Il a du pain. Aujourd'hui, il a la parole de Dieu pour toi et tu peux t'en nourrir chaque jour. Aujourd'hui, tu peux vivre dans ta vie chrétienne et personnelle une vie puissante, pas seulement l'Église. Amen. Si chacun d'entre vous, vous avez une vie puissante, vous avez une vie remplie de l'Esprit, si chacun d'entre vous, vous vivez quelque chose tout au long de la semaine, quand vous arrivez au culte, c'est juste le rassemblement de tout ce qu'on a reçu ensemble. Et alors, on amène ce qu'on a reçu, la puissance de Dieu, on est rempli de l'Esprit. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens viennent à l'Église pour être remplis, pour pouvoir tenir la semaine. Et c'est vrai, hein? Et c'est dommage. C'est dommage. Souvent, je demande à mes bien-aimés à l'Église, mais qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que tu as vécu quelque chose avec Dieu? Est-ce que tu vis quelque chose dans ta vie personnelle? Ou tu attends seulement l'Église pour vivre quelque chose. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Hein. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Et ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu vives personnellement quelque chose. Il y a des choses personnelles à vivre dans ta vie, dans ta chambre. Vivre des choses avec Dieu, des révélations dans la parole. Quand j'étais tout jeune et que je me suis fait baptiser, j'avais une vingtaine d'années, et il y avait un vieux papy de l'Église, à Reims, qui m'a dit cette phrase, et je pense que sans s'en rendre compte, c'était Dieu qui l'utilisait pour me donner une parole. Et il m'a dit à la sortie de mon baptême, il dit, tu sais Laurent, Dieu va t'emmener dans les mystères de sa parole. Mais tout le coup, j'avais jamais imaginé la parole de Dieu comme étant pour moi c'était, je voulais essayer de comprendre ce que la Bible disait, et vraiment de bon cœur. Et puis cette parole a suscité en moi le désir d'aller fouiller, d'aller trouver dans la parole, le désir que Dieu m'enseigne dans la parole, le désir que la parole devienne vivante pour moi. Amen. Mais ça, tu dois lire la Bible comme ça. Tu dois lire la Bible avec un désir, avec une soif, avec le désir de te nourrir, parce que la parole de Dieu, c'est un fruit. Mais bien aimé, il n'y a pas d'amour de Jésus sans amour de la parole. Parce que Jésus est la parole. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Alors tu aimes peut-être les choses extérieures de la présence de Dieu, mais si tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de la parole de Dieu, j'ai envie de te dire, il y a un problème, mon frère. Et tu dois désirer, chercher la parole de Dieu. Tu dois vouloir, tu dois prendre du temps. Là, vous allez prendre un temps de jeûne et prière. Je pense que c'est quelque chose que, je ne sais pas chez vous, en tout cas chez nous, quelquefois, on l'a perdu. On a oublié de jeûner. Et Jésus leur dit, il dit à ses disciples, quand on fait le reproche que les disciples de Jésus ne jeûnent pas, il dit, mais ils ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Mais l'époux leur sera retiré et ils jeûneront. Ils jeûneront. Dans le jeûne et la prière, mon bien-aimé, tu vas affaiblir ta chair. C'est pas je me prive de nourriture jusqu'à ce que Dieu ait fait ma volonté. C'est pas je me prive de nourriture jusqu'à ce que Dieu réponde à ma prière. Comme si je faisais un caprice et je tape du pied, c'est pas ça. C'est parce que nous savons, nous chrétiens, spirituels, qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et quand ma chair est faible, quand je ne réponds pas aux besoins de la chair, j'ai du temps et de la sensibilité pour entendre ce que l'esprit veut pour moi. Amen. Peut-être que c'est ça que tu dois reprendre. Peut-être que si tu fais le constat que ta vie et ta communion avec le Seigneur ce matin n'est peut-être pas au niveau que tu voudrais, j'ai envie de te dire, fais quelques jours de jeûne et prière, tout seul chez toi, jusqu'à dire, Seigneur, moi je veux entendre ta voix. Oh Seigneur, je veux sentir ta présence quand je suis dans ma chambre. Je ne viens pas pour prier, pour faire une routine de prière, je viens pour recevoir quelque chose. Je viens pour communier avec toi, je viens pour toucher le bas de ton vêtement. Amen. Quels sont les fruits dans ta vie? Je pose une question. Quels sont les fruits dans ta vie? Honnêtement, est-ce que tu manges des miettes depuis trop longtemps? Ou est-ce que tu manges du pain? Quels sont les fruits de ta vie? Quel est ton niveau de paix? Quel est ton niveau de paix? Là, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des tourments terribles. Des tourments terribles. Parce que peut-être tu n'as pas vaincu encore le diable. Il y a des choses à vaincre dans ta vie. Combien tombent dans des tentations terribles? Combien, lorsqu'on discute en tant que pasteur, nous disent mais qu'ils sont dans des addictions terribles, dans des pensées terribles. Bien-aimé, le Seigneur veut une victoire pour toi sur ces choses. Le Seigneur veut une victoire pour toi sur ces choses. Il faut que tu ne te contentes plus des miettes. Amen. Le Seigneur a de grandes choses pour toi. Il a un fruit abondant. Combien de chrétiens vivent dans la crainte? Combien de chrétiens vivent dans la crainte? Combien de chrétiens ne connaissent pas qu'ils ont un père? Moi, je ne suis pas dans la crainte parce que j'ai un père. Amen. Et moi, je protège mes enfants pas seulement quand ils me les demandent. Eh oh! Pas seulement quand ils me demandent. Je protège mes enfants même quand ils ne le savent pas. Je veille sur eux même quand ils ne le savent pas. Je connaissais une sœur, un couple que j'aime beaucoup, hein. Elle me dit, nous, on ne part jamais de notre maison sans avoir placé les enfants, les petits-enfants sous le sang de Jésus. On prie pour notre journée, on prie pour la voiture, on prie pour le voyage. Je dis, moi, je me remets juste entre les mains de Dieu. Je ne vis pas dans la crainte. Je ne vis pas dans la crainte de dire, mais c'est un truc que je n'ai pas demandé, il va m'arriver un malheur. J'ai quelqu'un qui veille sur moi. Amen. Je peux dire comme le psalmiste, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Et quand je traverse les moments les plus durs, et j'ai vécu des moments terribles, j'avais une confiance que j'ai un Père qui veille sur moi. Tu dois aujourd'hui vivre dans cette confiance avec Christ. Combien de chrétiens vivent dans la crainte? Tout le temps dans la crainte. Je ne craindrai rien. Amen. Si vous parlez en langue, et je vous invite et je vous encourage à parler en langue, c'est tellement puissant de parler en langue. On a tellement besoin de parler en langue. Et bien aimé, vous devez avoir une vie de prière, une vie chez vous où vous parlez en langue. Vous savez, quand on demande aux gens quelle est leur position, comment ils ont reçu le Saint-Esprit, « Ah oui, j'ai reçu le Saint-Esprit il y a longtemps, j'ai vécu quelque chose en 1990 à l'église, c'était formidable. » Et depuis, moi je vis la puissance du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour. Et des fois, vous savez, mes bien aimés, je parle en langue plus que je ne prie. Eh oh! Je parle en langue plus que je prie. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et je vous invite à parler en langue. Je vous invite à prendre du temps pour parler en langue. Je vous invite à laisser l'Esprit s'exprimer en vous. Parce que l'Esprit a des bonnes choses pour vous. Parce que l'Esprit est en train de prier Dieu. Il va sonder les profondeurs de Dieu pour vous, pour votre vie. Amen. Et si vous parlez en langue, mes bien-aimés, vous rendrez compte peut-être, peut-être vous avez déjà fait cette analyse. En tout cas, je m'en suis rendu compte dans ma vie chrétienne. Deux fois, je parle en langue et on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes choses qu'on dit. Et puis, il y a un jour, je ne sais pas pourquoi, le parler en langue change. Et je dis, tiens, Seigneur, je ne parle plus en langue comme je parlais avant. Tiens, j'ai l'impression que c'est une autre prière. Mais bien aimé, je suis passé sur la marche supérieure. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il prie en toi, il sait ce pourquoi il te prépare. Il sait ce pourquoi il prie. Quand c'est acquis dans ta vie, il te fait passer à la marche supérieure. Il prie pour autre chose. Parlez en langue, priez en langue, chantez en langue. C'est une puissance. Amen. On trouve ces trois notions de trois niveaux de croissance différentes, vous la connaissez aussi certainement. Mais dans Matthieu 7,7, il est dit « Demandez et l'on vous donnera ». Premier niveau, demande, je reçois. C'est simple. Deuxième niveau, cherchez. Ah, un peu plus compliqué. Cherchez et vous trouverez. Troisième niveau, qui demande un peu plus d'intensité, un peu plus d'engagement, un peu plus de force. Frappez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais bien aimé, peut-être t'en es resté à « je demande et je reçois ». Je te dis maintenant, viens chercher dans la parole. Viens chercher ma présence. Viens chercher. Et quand tu auras obtenu ces choses-là, le Seigneur te dit maintenant, viens et frappe. Frappe cette région, frappe les endroits qui sont autour de toi. Commence à frapper, commence à voir que Dieu va t'ouvrir des portes. Que Dieu puisse t'ouvrir des portes dans ton travail, que Dieu t'ouvre des portes et des victoires dans ta famille. Amen. Que Dieu puisse commencer, que tu puisses commencer à voir. Mais mes bien-aimés, vous savez, des gens chrétiens, quelquefois, se sont arrêtés parce que ça devenait dur. J'ai même vu une fois un homme, un pasteur, je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui, loin de là. Il disait, vous savez, moi, il dit, je prie, je demande une fois, et si Dieu ne répond pas, j'arrête. Et il disait comme ça, et ça m'avait choqué un peu. Hein. Il était sur l'estrade, il dit, moi, je ne suis pas là pour tirer le pantalon de papa. Hein. Je demande, s'il ne répond pas, je passe mon chemin. C'est ma croix. Il dit, non, mais je ne vois pas ça dans la Bible, moi. Quelquefois, les gens, parce que Dieu n'a pas répondu, disent que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas obtenu, parce que tu n'as pas eu la réponse, tu dis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je viens te dire que c'est peut-être la volonté de Dieu, mais que tu t'y es mal pris. Et que Dieu attend des nouvelles choses pour toi. Et que Dieu veut te le donner d'une autre façon, et pas de la même façon dont il te l'avait donné il y a quelques années. À l'époque où tu étais au biberon. Maintenant, Dieu te dit, oui, je veux te le donner, mais maintenant, je vais t'apprendre la fourchette et le couteau. C'est fini le biberon. Oui ou non ? Amen. Moi, Seigneur, j'ai envie de plus. Je vais conclure rapidement, on prendra peut-être un temps pour prier, mais... Un dernier passage qui nous parle aussi encore un petit peu de ces notions, c'est dans Matthieu 25, verset 14, il est dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. » Écoutez, il y a encore trois catégories ici. « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Écoutez ce que dit le maître. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Et comptez la conclusion, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Il y a là aussi une vérité, hein ? Il dit, on donnera à celui qui a. Eh oh, on donnera à celui qui a. et on retirera celui qui croit même avoir quelque chose. Tout à l'heure, on l'a dit, celui qui ne porte pas de fruit sera coupé, mais celui qui porte du fruit sera émondé afin qu'il en porte encore plus. C'est la même chose qui nous est dite ici. Amen. Il y a un risque terrible, terrible, de n'avoir que des petits fruits dans sa vie. Il y a un risque terrible de ne pas avoir fait prospérer les choses que Dieu avait mises en nous. Il y a une chose terrible d'être paresseux et inutile. Une chose terrible. C'est une chose terrible que n'avoir pas pris le temps, le talent, la vie, l'énergie que Dieu nous a donné, le souffle qu'il nous a donné, la jeunesse qu'il nous a donné, pour la mettre au service du Seigneur pour porter du fruit. J'avais un vieux pasteur au tout début de mon ministère qui m'a dit « Laurent, fais beaucoup de choses pour le Seigneur tant que tu es jeune. Un jour, tu regretteras de certaines choses que tu n'as pas eu le temps de faire. » Et bien aimé, quel est le bilan de ta vie aujourd'hui? Et je voudrais le dire vraiment sans accusation, mais plutôt pour te donner envie de passer sur la marche supérieure. Envie ce matin de dire, mais il me faut du fruit à nouveau dans la prière. Il me faut à nouveau du fruit peut-être dans l'évangélisation. J'ai parlé de Dieu 2-3 fois, et puis ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Peut-être que tu veux à nouveau avoir du fruit dans le parler en langue et vraiment dans la visite de l'esprit. Peut-être que tu as besoin encore, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir la paix de Dieu. Combien de chrétiens vous vivez dans la crainte? Combien de chrétiens vivent et luttent avec des tentations? Combien de chrétiens ne sont pas libres de certains tourments? Combien de chrétiens ne vivent pas dans la paix profonde de Dieu ce matin? Amen, Dieu veut me déposer des bons fruits en toi. Dieu veut déposer des bons fruits en toi. Et je termine avec 1 Corinthiens 3, verset 18. Bien-aimés, c'est un défi que je vous lance ce matin. Je vous encourage à vivre de grandes choses avec Dieu. Il est dit que nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Dis à ton voisin, de gloire en gloire. Dis à ton voisin, de gloire en gloire. Et tu ne peux pas vivre avec la gloire du passé. Tu ne peux pas vivre avec la gloire du passé. Il y a une nouvelle gloire pour toi. Tu ne peux pas vivre seulement avec l'expérience que tu as fait du Saint-Esprit il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Tu ne peux pas vivre seulement avec l'expérience de ta conversion. Il y a d'autres gloires à vivre. Amen. Il y a des choses plus puissantes à vivre. Il y a des choses plus merveilleuses à vivre. Il y a des choses plus complètes à vivre. Il y a des choses plus nourrissantes à vivre. Amen. De gloire en gloire. Église du Colombier, de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Qui a envie de voir une nouvelle gloire dans sa vie? Je ne peux pas, je veux pas rester sur la gloire d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, des expériences que j'ai faites. J'ai besoin de vivre des choses puissantes dans ma vie. Aujourd'hui, il est dit dans Jean, au chapitre 1, que nous qui l'avons vu, nous avons contemplé la gloire de Dieu comme la gloire venue du Père et nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Amen. Il y a des gens qui ont reçu une grâce, sont rentrés chez eux, ils étaient contents de cette grâce. Il y en a d'autres qui disent, moi je veux grâce sur grâce, grâce sur grâce. Mais la grâce d'après te demande un sacrifice. La grâce d'après te demande un engagement nouveau. La grâce d'après te dit peut-être comme pour Abraham, viens me donner ce que tu as de plus cher aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te dit et tu sens que c'est dans ton cœur. Le Seigneur te dit, donne-moi cette chose-là qui t'est très chère. Donne-moi aujourd'hui, viens me la donner en sacrifice. C'est aujourd'hui que tu dois la lâcher. Écoute bien, c'est aujourd'hui que tu dois la lâcher. Parce que cette chose est dans ta vie et tu l'aimes plus que moi. Dieu te dit, c'est aujourd'hui que tu dois la lâcher. Amen. On prend un temps pour la prière, si vous voulez bien. Julien, on a quelque temps, on prie ou... Oui. Peut-être si vous voulez, vous pouvez vous avancer. Et on veut vraiment prier pour vous. Et mon désir, c'est que on puisse vraiment prier pour vous, que vous passiez sur la marche supérieure. Amen. Si vous voulez, peut-être que quelqu'un peut prendre... Nicolas, tu peux prendre la guitare, peut-être, quelques notes. Et puis moi, je voudrais vraiment prier pour vous, pour que vous alliez manger des fruits encore meilleurs. Peut-être un jour, si je reviens au Colombier, vous me direz, « Waouh, mais ce que je vis aujourd'hui, c'est bien mieux que ce que je vivais il y a quelques années. » Amen. Seigneur, vraiment, on te présente cette église. Et si vous voulez, vous pouvez vous avancer, on priera. Shokora baba ba sekeri baba manankaro bo sedebende. Riori bibi sharabanto robo sekere bebe sharaba baba se. Oye bishara mana 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 baba seko robo shekara basu kurubu shintara basu. Robo bo robo bo shekere benta raba basu. Kokuru baba baba shekere ben kere benta raba basu. Luya shigidi dini di baba banda baba baba basu. Seigneur, tu renouvelles l'onction, Seigneur, sur tes enfants. Tu renouvelles l'onction sur chacun. Tu renouvelles le feu. Tu renouvelles l'envie, Père. Tu renouvelles l'envie. Seigneur, on peut peut-être commencer à prier. Peut-être que Bernard aussi, tu veux venir. On voudrait prier pour chacun, vraiment. Seigneur, on te demande ta grâce, Seigneur, sur ces moments. Vraiment, tu implantes un feu nouveau en chacun, un désir d'aller plus loin, une soif, Père. Et Seigneur, nous voulons nous repentir si peut-être nous avons arrêté d'avoir soif. Nous voulons nous repentir si peut-être nous nous sommes arrêtés d'être remplis de ton feu. Et Seigneur Jésus, tu veux nous remplir ce matin. Tu veux nous remplir, tu veux nous donner ta force. Tu veux nous donner ton envie, ton désir, ta passion. Et Seigneur Jésus, nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Amen.